la. Salut à toi, camarade. Cette émission censurée, avec le Dave derrière le micral, la jactance et le Cyril derrière les potards, à la technique, presque en direct à l'antenne d'RCN, Radio Caraïbes, Nancy, sur les ondes 90.7 FM, et sur la toile www.rcn-radio.org, et aussi en redifféré sur Radio Déclic, et à nouveau sur MNE Radio à Mulhouse. Voilà. Et ce soir, chère auditeuse, je commence par les filles ce soir, c'est normal, vu le thème, chère auditeuse, chère auditeur, on se met 1005e jour, oui, 1000 jours passés de 5 jours, d'occupation Rothschildo, Medefo, Black Rocco, Macronienne, et 1511e jour d'état d'urgence permanent, la libre pensée ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Alors, bienvenue dans cette nouvelle heure de l'athée, en soutien inconditionnel et total à Mila, et ça démarre exactement comme ça. Hop là, et ben voilà, on y est, ça commence par un vieillard de Kazoo. Bienvenue et merci d'être à l'écoute d'émissions censurées, je suis très heureux, même si je suis contrarié par le thème, de vous retrouver, de te retrouver ce soir. Donc on vient de commencer par une vieillerie, hein, 88, ça commence, oui, ça nous rajeunit pas. René Binamé et les Roues de Secours, c'est le nom du groupe. Et le nom du morceau, c'est l'opium du peuple, comme tu t'en es rendu compte. Issu d'une sorte de best-of des premiers morceaux, des premiers disques, EP, singles, etc. de René Binamé, qui s'appelait à l'époque Et les Roues de Secours, ce qui est passé par la suite. Le best-of dont je parle, il s'appelle Vocation et lui, il est sorti réédité en 92 chez RG, distribué pareil. Et le morceau en tant que tel, Opium du Peuple, lui, il est sorti sur le tout premier EP vinyle sans titre de René Binamé et les Roues de Secours. Voilà, l'Opium du Peuple, je pense que c'est une très très belle expression et conception et postulat pour commencer cette nouvelle heure de l'athée. Alors, c'est la sixième épisode, sachant que le précédent, comme quoi je n'y revais pas dans cette thématique, dans la joie la plus extatique. Non, ça me fait vraiment chier qu'en 2020 on en soit toujours à lutter et à argumenter contre ces fumiers d'obscurantistes qui essayent de nous empêcher de penser en dehors du cadre bien pourri de quelque dieu que ce soit, venant de quelque religieux, de quelque poil que ce soit. Donc voilà, je suis remonté comme une pendule, comme tu t'en rends compte. C'est normal, parce que ça m'énerve. Donc, précédent épisode, c'était dans la saison 7, sachant qu'on est en la saison 11, sachant qu'aujourd'hui c'est le 350 54e épisode et que la dernière sur le sujet, c'était le 228e et c'était le 29 avril 2015. Voilà. Alors pourquoi 29 avril 2015 parce que sûrement Charlie Hebdo, parce que sûrement tout ça. Et que ça devient tellement anxiogène de défendre ce qui est logique spirituellement, c'est-à-dire spirituellement, sachant que bah tiens, j'ai noté plein de trucs sur mon petit post-it. Sachant que la religion et la spiritualité, c'est absolument pas la même chose. Sachant aussi que la religion, c'est l'enfant bâtard, gâté, pourri de la spiritualité. Voilà. Alors nous allons essayer d'être spirituels et d'amener quelques arguments pour appuyer les arguments de Mila. Alors, pour celles et ceux qui seraient passés à côté de cette affaire, comme on dit maintenant, montée de toutes pièces par les fachos de tout poil, donc d'un côté, et les médias de l'autre. Mila, c'est une jeune fille qui de 16 ans, donc ado, femme, lesbienne et athée, à savoir tout ce que peut détester tous les religieux. Alors bon, voilà ce qui explique aussi le fait que tout est en train de lui retomber sur la gueule et qu'elle peut même plus avoir de vie sociale ni scolaire, etc. Puisque après avoir cité dans une petite vidéo, je sais plus sur quel réseau social à la con, que je cite, on ne peut pas être raciste envers une religion. Ça, c'est un argument incontournable. Et deuxième citation, c'est de religion, en parlant donc de l'islam, c'est de religion, c'est de la merde, et ton Dieu, je lui mets un doigt dans le cul. Voilà, alors j'hésite pas à le dire, parce qu'effectivement, en France, depuis la fin du 19e siècle, et depuis particulièrement la séparation de l'Église et de l'État en 1905, on a le droit de blasphémer malgré l'incompétence crasse et stupide de cette connasse qui se retrouve au ministère de la Justice. Des études de droit, et pour arriver à un ministère, pour avoir une telle méconnaissance, ça symbolise vraiment la connerie crasse de ce gouvernement et de cette Macronie. Enfin voilà, bon voilà, bon je vous avais prévenu, hein. je t'avais prévenu, je suis bien vénère. Donc alors, j'appuie et je soutiens évidemment ces deux phrases de Mila que je remets dans leur contexte, sachant que comme, alors bon évidemment, en parlant de l'islam, évidemment c'est les fondamentalistes et les fanatiques musulmans qui s'autoproclament parler au nom de tous les musulmans de France, malgré le fait qu'ils soient une infime minorité dans ce pays et qui, c'est pas parce qu'on gueule le plus fort qu'on a raison, et je tiens à préciser que c'est pas que donc blasphémer est un droit défendu par la justice en France, alors que les menaces de mort et de viol comme a pu en être victime Mila sont elles considérées comme un crime par la loi de ce pays. Voilà, ça c'est déjà une voilà, ça c'est fait. Et puis, le doigt dans le cul, eh ben, c'est peut-être pas bien fin. Certes, peu importe, parce que Mila a 16 ans. Moi, à son âge, j'étais athée aussi. Maintenant, j'en ai 32 de plus. Je suis toujours aussi athée virulemment, débaptisé apostat. Cette religion dans laquelle j'ai été élevé, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour les gens de ma famille qui m'ont élevé là-dedans, parce qu'au niveau individuel, la religion, c'est une chose. Au niveau sociétal et politique, c'en est carrément une autre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça y est, je commence à me paumer. C'est pas grave. Donc, blasphémer est un droit, machin, tout ça. Eh ben, je ne sais plus. Eh ben, c'est pas grave. Je reprendrai le cours de mes réflexions énervées après le deuxième morceau qu'on va s'écouter ensemble. Ah oui, c'est ça. Le doigt dans le cul. Oh, le doigt dans le cul. C'est une boutade. C'est plutôt rigolo que vulgaire, je dirais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu connais le petit proverbe qu'on dit aux enfants, hein, pour bien les élever, ne montre pas du doigt. Ah bah oui, pourquoi il faut pas montrer du doigt ? Parce que le petit Jésus est partout et que tu vas finir par lui mettre le doigt dans le cul. Donc on retourne évidemment sur les arguments de Mila. Et avant qu'on enchaîne sur le deuxième morceau, je tiens à le dire, à le clamer et à le hurler haut et fort, merde à tous les Dieu. Dieu, que ce soit Yahvé, que ce soit Jéhovah, que ce soit Allah, que ce soit Zeus, que ce soit Bouddha, Bouddha qui n'était pas un dieu d'ailleurs, comme Jésus, que ce soit Jupiter, celui-là on l'encule bien profond, que ce soit qui d'autre, on peut remonter à très très loin dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à par exemple Gilgamesh. Ah mais qui est Gilgamesh? On y reviendra tout à l'heure. Gilgamesh, je crois, c'est le premier héros un peu dans les premières histoires un peu mythologiques, et ça date depuis Mathusalem et même avant, puisque là on est carrément dans Babylone et tout le bordel. Donc Gilgamesh, et ça tombe bien, c'est le titre que nous proposent les affranchistes tout de suite.
Allô.
là là, alléluia, alléluia, alléluia. Et Gilgamesh, donc G-I-L-G-A-M-E-S-H, je l'appelle et je vais t'expliquer pourquoi je l'appelle une fois que j'aurai présenté ce merveilleux morceau, qui est un morceau des Affranchistes, issu de leur dernier album. Le groupe n'existe plus malheureusement, et le dernier album est sorti en 2016, il s'appelle Modernicus, et il est sorti chez la Tanière Productions, de manière autodistribuée. Voilà. Alors Gilgamesh, alors ça se prononce, je sais pas comment, Gilgamesh, tu vas taper sur Wikipédia, hein, et puis tu vas voir avec tes petits doigts et avec tes propres yeux et ton propre cerveau, à quoi ça fait référence, Gilgamesh. C'est, pour faire court, hein, parce que j'ai pas eu le temps non plus de fouiller profondément là-dedans, pour faire court, Gilgamesh, c'est le premier héros d'un roman un petit peu d'aventure mystique. Voilà. C'est une aventure qu'on peut rapprocher, par exemple, d'une histoire... qui a été couché sur papier ensuite par Homère, comme l'Iliade et l'Odyssée, par exemple. Donc ça vient, c'est comme un conte, voilà, c'est qu'on retrouve dans un livre et qui était considéré à l'époque comme sacré. Alors on peut par exemple Gilgamesh dire sans avoir aucune peur de se tromper que le récit, l'aventure de Gilgamesh a inspiré toutes les aventures mystiques qu'on connaît par la suite, y compris celles de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Coran. Voilà, Gilgamesh, c'est la base de tout. Comme quoi, comme je disais la semaine dernière ou celle d'avant, je me souviens plus précisément, pour pouvoir entrevoir un avenir serein, juste et vivable, il faut... absolument commencer à se débarrasser des vieux récits, à commencer évidemment par les vieux récits religieux qui, au bout de 2000 ans pour le Nouveau Testament, 1500 ans, 1200 ans, je ne sais plus exactement pour le Coran, peut-être encore évidemment plus de 2000 ans pour la Torah, et puis je crois que Gilgamesh, c'est il y a 4 ou 5 millénaires, ce genre de truc. Donc, d'autant plus que plus ces vieux récits vieillissent, plus ils deviennent malsains, plus ils deviennent interprétés. Enfin, ça n'a absolument plus rien à voir avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, et surtout celle avec l'époque qu'on vivra demain, si demain existe. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc, on est en train de parler de... Enfin, je suis en train de parler de littérature. Alors, ça tombe bien, parce que j'ai... parce que, bah tiens, les vieux récits, hein, avec tous les dieux, Gilgamesh, machin, tous les dieux que j'emmerde bien profondément, on peut parler du Père Noël aussi. Hein, je peux dire du mal du Père Noël. Il n'y a pas de souci, puisque c'est un personnage fictif. C'est un personnage fictif... Oh, je suis désolé de te l'apprendre, Cyril. Oh, excuse-moi. Je voulais pas casser la magie de Noël. Le Père Noël est donc un personnage fictif, au même titre que Dieu, que Allah, que Bouddha, même si tant est peut-être que Jésus, peut-être qu'il aurait existé, on ne sait pas encore vraiment. Quoique, il y a des archéologues qui disent que Jésus a vraiment existé, mais qu'il devait avoir une sacrée bonne tête de juif et d'arabe, plutôt que d'avoir des yeux bleus et comme l'Église apostolique et romaine l'a représenté depuis ces derniers siècles, des siècles, amen. Voilà. Alors, puisqu'on est en train de parler de littérature et de vieux récits, on va écouter un morceau magnifique qui illustre un petit peu mon propos, et vice-versa d'ailleurs, qui est un morceau de mon oncle Serge, qui nous vient des grandes prairies, des forêts de québécoises, et qui est très très remonté aussi contre la religion, ça tombe bien, puisque son morceau, le morceau que je te propose, gros, eh ben il s'appelle « Ce livre ». Mais quel livre ? Réponse dans ce morceau glauque que nous allons écouter avec délectation et surtout sans prosternation.
Et vous pauvrette qui a l'allure de ce qu'on trouve dans les rayons des renombrés. Ce livre n'est pas à mettre dans le même sac que ceux de Balzac et de Michel Tremblay. C'est du petit jus qui coule direct des cieux. C'est le top du top de ce qui peut s'écrire. Si c'est pas pour déchiffrer ces mots précieux, il est parfaitement futile d'avoir appris à lire. Parce que ce livre n'est pas l'œuvre des hommes. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Étouffe la critique qui monte en toi, parce que ce livre n'est pas d'origine humaine. Il vient de la source la plus fiable qui soit, là d'où tout vient et là où tout mène. Quand est-ce que ces chercheurs vaniteux comprendront que la science est superflue devant ces pages sacrées? Ils ne voient pas que toutes les recherches qu'ils font ne font pas le poids devant ce qui est consigné dans ce livre qui n'est pas l'œuvre des hommes, ce livre qui est la parole de Dieu. Ce livre qui n'est pas l'œuvre des hommes, ce livre qui est la parole de Dieu. Voyez ce torrent qui ruisselle, ce flot de larmes qui inonde mes yeux. C'est la tristesse et la douleur qui crève mon cœur quand j'entends les mécréants dire du mal de Dieu. Voyez ce troupeau de païens blasphémés tourner ce livre en dérision. Ils mordent la main qui les a créés. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, car ce livre n'est pas l'œuvre des hommes, ce livre, c'est la parole de Dieu. Ah oh oui, ce livre n'est pas l'œuvre des hommes, ce livre, c'est la parole de Dieu. Ce livre n'est pas l'œuvre des hommes, ce livre, c'est la parole de Dieu.
Ce livre. Par mon oncle Serge, voilà, ça c'est du morsif et ça, ça fait du bien de se prendre dans les esgourdes et les neurones. Ce livre, il est donc issu du dernier album en date de mon oncle Serge qui s'appelle Révolution conservatrice, sorti en 2017 chez les productions Serge, donc de l'autodistribution, comme d'habitude avec mon oncle. Et distribution Select, c'est le nom du distributeur, au Québec. Voilà, tu peux même le commander directement là-bas, c'est là que je l'ai trouvé. Alors, ce livre, c'est la parole de Dieu. Mais non, mais aucun livre n'est la parole de Dieu. Ou alors, tous les livres sont la parole de Dieu. C'est soit rien, soit tout. Par exemple, on peut s'imaginer que d'ici quelques siècles, avec tout le succès qu'il a pu avoir, ce gros livre, cette saga, on peut dire que, par exemple, va savoir comment ça fonctionne, la déification dans le processus, machin. Mais Jésus est un personnage de roman au même titre que Gilgamesh que je parlais, que j'évoquais tout à l'heure, ou même que Harry Potter. Et bah oui, voilà. Alors s'il y a encore des gens qui sont capables de déifier Harry Potter, pourquoi pas? pourquoi pas, ça les regarde à partir du moment où ça ne fait de mal à personne et ça ne va pas à l'encontre de la loi qui spécifie bien que nous avons le droit, dans cette société, d'avoir toutes les opinions religieuses ou pas qui nous appartiennent, et que critiquer une religion, ce n'est pas critiquer des individus, c'est bien critiquer une idéologie, puisque la religion est une idéologie politique comme toutes les autres. Et j'en veux pour preuve que cette loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, elle existe après une lutte séculaire contre le pouvoir dégueulasse que pouvait exercer l'Église apostolique et romaine. Et enfin, en Europe et en France, on en est débarrassé. Alors, c'est pas pour que des fanatiques fondamentalistes, islamistes ou catholiques ou juifs viennent nous empêcher de penser ce qu'on pense dans ce qui nous paraît être logique. Voilà, chacun voit Dieu à sa porte ou pas. Dans tous les cas, il n'y a pas de mais. Et ça, je voulais vraiment en revenir là-dessus, parce que des critiques, Mila en a eu, et elle n'a pas eu d'ailleurs que des menaces de mort et de viol et de tout ce que tu voudras, mais les médias et les politicards se sont entichés de cette affaire pour détourner un petit peu le regard, des trucs sur les retraites, encore un écran de fumée, encore un montage médiatique de la société du spectacle. À partir du moment où on parle de ça, on ne parle pas de l'essentiel, surtout que la plupart des arguments, Ségolène Royal la première, par exemple, ou Nicole Belloubet, ministre de la Justice, que j'évoquais tout à l'heure, surtout que ça n'est absolument pas argumenté. Alors, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de mais. Ah, elle a eu raison, cette adolescente, Mila, de dire que, mais quand même, oh, elle aurait pas dû le dire si vulgairement, hein, mais quand même, il faut argumenter. Ah, mais. Le mais, c'est la destruction de la liberté de conscience. Cette gamine a tôt totalement raison, et il n'y a pas de mais foutre Dieu. À partir du moment où commence à y avoir des mais, on n'est plus dans le respect de la laïcité qui impose la liberté de conscience à tous et toutes, quelle que soit sa religion et quel que soit tout ce que tu veux. Non, on rentre dans une lâcheté politicarde. Cette lâcheté qui a fait que la rédaction presque entière de Charlie Hebdo, qui est quand même notre et qui reste heureusement notre vigie laïcarde, qui permet de tirer la sonnette d'alarme chaque fois que la religion commence à remettre l'équilibre de notre société en danger. Une phrase, un mot n'est pas une arme. Une blague ne tue personne. Un dessin n'a jamais tué personne. Une kalachnikov, si. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors qu'on arrête de dire oui, mais, et sous prétexte d'économiser, de ménager les susceptibilités des fous de Dieu les plus extrémistes, on est en train d'abdiquer sur la liberté de conscience et la manière dont on la protège. Parce que fermer sa gueule quand on est non-croyant, c'est pas du prosélytisme. Fermer sa gueule quand on est non-croyant, c'est laisser la place au fanatisme. Donc, c'est exactement le contraire du prosélytisme. Le prosélytisme qui est « je crois en Dieu et je vais t'obliger à croire en mon Dieu parce que toi, tu es mécréant. Et comme c'est le seul Dieu, donc la seule raison, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, et si tu n'es pas d'accord avec moi, eh ben je vais te brûler. » Alors, quand on est athée, non-croyant, agnostique et tout le bordel, il n'y a pas de prosélytisme. Ce que je suis en train de faire et ce que j'ai essayé de faire pendant 6 épisodes d'heures de l'athée dans l'émission censurée, ce n'est finalement pas du prosélytisme, c'est juste de la défense de libre conscience. Ce qui n'a absolument rien rien à voir. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit de mon athéisme. Je suis juste là pour que tout le monde puisse se permettre de le rester si il en a besoin, envie ou qui pense que c'est logique ou juste. Voilà. Ceci étant dit, Mila n'est pas la seule, c'est peut-être la cible la plus facile en tant que femme lesbienne et athée. Certes, moi qui commence à être vieux, ça commence à venir, hein, je suis un jeune vieux, mais qui suis homme, qui suis hétérosexuel et qui suis athée, je suis peut-être une cible moins facile. Je l'espère, parce que je vais plutôt parler d'un collègue. Un collègue qui s'appelle Frédéric Fromet, qu'on peut retrouver tous les vendredis soirs à l'antenne de France Inter dans l'émission Chez Jupiter. Toutes les semaines, il fait une nouvelle chanson, une parodie, machin, sur l'actualité. Alors Frédéric Fromet, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je crois en réagissant aussi, me semble-t-il, hein, je suis pas certain de ce que je dis, en réagissant aussi sur l'affaire Mila, a écrit une chanson sur la religion où il dit que Jésus-Christ était pédé. Alors, ce qui est d'ailleurs super drôle, puisqu'on peut évidemment dire tout ce qu'on veut sur Jésus, qui est un personnage de roman, inspiré peut-être d'un Carrel, mais ça, je l'ai déjà dit, et peu importe, c'est pas le fond du sujet. Sachant que c'est pas le premier à le faire, Frédéric Fromet, de chanter que Jésus était pédé. J'en veux pour preuve la dernière émission sur le même sujet, donc il y a... en 2015, hein, dans la saison 7, tire à retrouver ça toi-même, c'est la 228, je l'ai dit en début d'émission. C'est les vampires qui l'ont chanté la première fois, et c'est d'ailleurs le morceau qui clôt la précédente heure de l'athée. Donc les vampires, en 86, le morceau et le disque d'ailleurs s'appelle « Jésus-Christ était pédé ». Donc cela étant dit, voilà. Les fachos cathos ou les fachos islamistes qui disent mais Frédéric Fromet, enfin surtout les cathos, il dit que Jésus est homosexuel. Si ça c'est pas le blasphème ultime. Mais il oserait jamais dire la même chose sur Allah, sur Mohamed, avec les musulmans, tout ça. Eh ben si, justement, parce que Frédéric Fromet ne manque pas de courage. Et en ça, je suis d'une admiration et d'un respect immense pour le camarade Fred, qui a chanté juste après les attentats de Charlie Hebdo, etc. Une magnifique chanson qu'on va se partager tout de suite, camarades, et qui s'appelle Koulibaly, Koulibalo. Sont dans un bateau. Koulibalo, ton Bali.
Koulibaly, Koulibalo, tu t'es bien fait trouer la peau avec les deux frères Kouachi, à l'épicerie, à l'imprimerie. Vous faire flinguer, c'était fatal, vous qui étiez des vrais trous de balles. Allahu Akbar. Et c'est Charlie qui redémarre. Koulibaly, Koulibalo, à quelle bande de salauds, contre des crayons dissidents, vous étiez armés jusqu'aux dents. Quand on a une petite quéquette, il faut une grosse mitraillette. Allahu Akbar. Vous n'aviez rien dans le calbar. Au moins, il risque pas de faire du mal aux 70 vierges. Koulibaly, Koulibalo, pour vous planquer c'était zéro. Aviez-vous besoin de lunettes ou étiez-vous analphabète? Vous pensiez être hyper caché, mais il fallait lire hyper cachère. Allahu Akbar, vous n'aviez même pas bu de pinard. Koulibaly, Koulibalo, c'est bien la preuve s'il en faut qu'évidemment les musulmans sont tous des gens très très méchants. De même que, ainsi soit-il, tous les cathos sont pédophiles. Allahu Akbar, et toutes les vieilles sont des cougars. Koulibaly, Koulibalo, qu'aviez-vous dans le ciboulot pour alourdir notre fardeau en humiliant notre sarco? Avez-vous vu notre bismuth au premier rang taper l'incruste? Pousse-toi de là, je suis petit, on me voit pas. Attention, dernier verset. Koulibaly, Koulibalo, dans notre malheur on a eu chaud. Imaginons que Charlie Hebdo se soit appelé Brandon Hebdo. Combien y aurait-il eu peur? Brandon. Ah, ah, Allah Wakbar, c'est était là le vrai cauchemar. Ah, ah, Allah Wakbar, les fous de Dieu sont des tocards.
Les fous de Dieu sont des tocards. Je plus sois à donf. Koulibaly, Koulibalo, donc magnifique morceau de Frédéric Fromet au texte. La musique, évidemment, est traditionnelle et aux arrangements derrière, c'est Les Ogres de Barbac. Issu donc du dernier album studio en date de Frédéric Fromet, qui s'appelle Ça Fromet, point d'exclamation, sorti en 2015 chez Urfan le label et distribué pareil. Donc. Alors, avant qu'on commence à parler de poésie, de littérature et de je sais pas quoi. J'ai entendu ça, je sais plus du tout. Il aurait jamais osé taper sur les musulmans, dixit les catho-fachos. Et ben voilà la preuve du contraire. D'ailleurs, je parlais du courage de Frédéric Fromet et d'ailleurs de tous les gens, dessinateurs, musiciens, artistes, poètes et tout ce que tu veux, qui défendent la liberté de conscience par acte artistique interposé. Frédéric Fromet ne manque pas de courage et d'ailleurs, ça, à l'instar de Mila, ça se ressent sur sa vie personnelle puisqu'il a été 3 fois sous protection policière, le Fred, quand même, à 3 occasions et la plus longue, c'était sous protection policière pendant 2 mois. Et même pas pour une critique sur la religion, de quelque obédience soit-elle, mais bel et bien contre les corridistes, vous savez, les gens qui aiment regarder et organiser des corridas où on tue des taureaux. Comme quoi, il y a peut-être quelque part encore plus abruti que les religieux fanatiques. J'en veux pour preuve les corridistes. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu de culture. Hein, ça va nous faire du bien parce que contre la crasse bêtise religieuse, il n'y a qu'une seule chose, c'est faire un pas de côté par l'art et en l'occurrence par la poésie. Et comme quoi, Fred Fromet et Mila aussi, et ton serviteur, par la même occasion, on est tributaire d'une longue histoire de contestation de la religion. Et on vient pas, on n'a rien inventé, ça fait quand même plusieurs centaines d'années que ça dure. Et là, on va s'écouter un morceau extraordinaire qui est issu d'un poème non moins extraordinaire, d'un sacré bouffeur de curé aussi. Alors curé, imam et comment ils s'appellent les curés juifs ? Rabbin, même combat, même saloperie, voilà. Donc, bouffeur de curé, en ce qui concerne Jacques Prévert, voici la preuve par Christian Olivier Interposé, qui a écrit une très très jolie musique sur le Pater Noster de Prévert. Ça fait 3 rimes en R pour le même prix, et je te l'emballe, il m'en reste un petit peu, ma petite dame. Eh ben oui, je vous le mets quand même. Allez hop, c'est parti. Reste debout, hein, c'est pas parce qu'il y a l'orgue qu'il faut se mettre à genoux. Voilà. Surtout pas à genoux pour sucer le curé.
Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai. Avec son océan Pacifique et ses 2 bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles, et qui n'osent se l'avouer. jolies filles nues qui n'osent se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légion, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs reîtres. Avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons. Avec la paille de la misère, pourrissant dans l'acier des canons.
Ok, il restait comme ça, on vivra bien en paix. Paternoster par Christian Olivier, issu de son album Prévert, sorti en 2017, évidemment qu'avec de la musique sur des poèmes de Prévert. Et ce magnifique album que je te recommande ardemment, il est sorti chez Fontana, c'est un label Mercury Music Group, à savoir lui-même un label Universal Music France. Donc, le poème Paternoster, donc Jacques Prévert, né en 1900, mort en 1977, et Paternoster a été publié dans le recueil Parole, édité en 1946, ce qui nous rajeunit pas non plus. Juste au passage, c'est pas parce que je suis athée d'origine, disons d'obédience originale catholique, que je ne vais pas me permettre de critiquer toutes les religions. Faire du différentialisme sur les religions, c'est le début du racisme. Toutes les religions sont à mettre exactement au même niveau, donc critiquables de la même manière. Ceci étant dit, c'est avec une délectation personnelle et spécifique que j'aime bien quand même bouffer du curé et surtout cette hypocrisie dégueulasse, j'hésite pas à le dire, parce que quand on parle, quand on voit tout ce dont sexuellement, pédophilement parlant, sont capables les curés, et principalement aussi bien en ce qui concerne les enfants que les femmes, qui sont uniquement des esclaves sexuels, livrées à des prédateurs sexuels, et qu'une fois que les prédateurs engrossent les nonnes, et ben il y a tout un système en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, un système d'avortement clandestin, sciemment organisé, protégé et couvert par la hiérarchie papale. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai vu ça dans un documentaire, c'est même sous forme de bouquin, etc. Donc c'est factuel. Alors là, je sais même pas si le mot hypocrisie mérite la hauteur de la saloperie vaticane. Ceci étant dit, quand je pense à ça, parfois je me sens pris d'horreur, c'est le cas de le dire, puisque c'est un morceau de la Green Box avec le même système que Christian Olivier, la Green Box, mais c'est pas du Prévert dans le texte. Cette fois-ci, c'est du Victor Hugo. Et là, on rigole plus. Ou si, rigolons.
Parfois, je me sens pris d'horreur. Pour cette terre, mon verre semble la bouche ouverte d'un cratère. J'ai le farouche chez moi. Que donne l'ouragan monstrueux au grand arbre, mon cœur prend feu. Je sens tout ce que j'ai de marbre devenir l'avant-moi. Quoi, rien de vrai, le scribe a pour appui le reître. Toutes les robes juges et vierges femmes et prêtres mentent ou mentiront. Le dogme boit du sang, l'autel bénit le crime. Toutes les vérités, groupe triste et sublime, ont la rougeur au front. La sinistre lueur des rois est sur nos têtes. Le temple est plein d'enfer, la clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre et les religions à tâtons dans l'ombre prient le démon pour Dieu. Qui me donnera des paroles terribles où je déchirerai ses chartes et ses bibles, ses codes, ses corans. Je pousserai le cri profond des catastrophes et je vous saisirai, sophiste, dans mes strophes, dans mes ongles tyrans. La sinistre lueur des rois est sur nos têtes. Le temple est plein d'enfer, la clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre et les religions à tâtons dans l'ombre prient le démon pour Dieu. Frémissant pâle, indigné, je bouillonne. On ne sait quel essaim d'aigle noir tourbillonne dans mon ciel embrasé. Deuil, guerre, une ménie dans mon âme est éclose. Quoi, le mal est partout. Je regarde une rose et je suis apaisé. La lueur des rois est sur nos têtes. Le temple est plein d'enfer, la clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre et les religions à tâtons dans l'ombre prient le démon pour Dieu. La lueur des rois est sur nos têtes. Le temple est plein d'enfer, la clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre et les religions à tâtons dans l'ombre prient le démon pour Dieu.
Ça, c'est trop bon, c'est trop bon. Voilà, parfois je me sens pris d'horreur. De la Green Box, issue de l'album éponyme, qui ne porte pas de nom. Donc la Green Box, sortie en 2018 chez LRK, comme la rue Quétanou Productions, est distribuée par l'autre distribution. La Green Box, c'est donc le nouveau projet solo de Florent Vintrinier, qui a signé d'ailleurs la musique qu'on vient d'entendre sur le texte de Victor Hugo. Laurent Vintrinier, évidemment, de la rue Quétanou. Les arrangements du morceau sont signés Benoît Laure, donc c'est pas un projet si solo que ça. Et dans tous les cas, voilà où je voulais en venir, c'est le poème de Victor Hugo, Parfois je me sens pris d'horreur, qui a été publié dans le recueil L'art d'être grand-père, sorti en 1877, comme quoi l'héritage de la libre pensée anti-religieuse remonte quand même à quelques années, et je suis très très heureux de pouvoir contribuer à cet héritage par cette modeste petite émission, modeste certes, mais quand même qui ouvre bien sa gueule. Alors évidemment, je pourrais pas passer tous les morceaux que j'avais prévus. Par exemple, tu peux aller chercher mon Petit Doigt m'a dit, de Lynine Renaud, sur Internet. Comme ça, tu compléteras les trous par manque de temps dans l'émission. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, alors, on va essayer de mettre les choses bien au clair. L'islamophobie, ce n'est pas du racisme. En paraphrasant et en reprenant l'argument de Mila, comme quoi on ne peut pas être raciste envers une religion, on est complètement dedans. Alors, sauf... L'islamophobie n'est pas du racisme, sauf en ce qui concerne les vieilles badernes, cathos, fachos d'extrême droite, qui se servent justement de la conception et du terme d'islamophobie pour pouvoir justifier un différentialisme culturel et religieux. Donc, par exemple, on peut citer une idée reçue complètement débile, comme quoi, par exemple, tous les Arabes seraient musulmans. Eh ben non, tous les Arabes ne sont pas musulmans. Et d'ailleurs, quand on dit arabe, c'est une caricature en soi. Tout comme, d'ailleurs, on peut faire le contraire. Tous les musulmans ne sont pas arabes non plus. Prétendre le contraire, c'est jouer sur une grille de lecture d'extrême droite. Point. Si on veut parler d'islamophobie, en ce qui me concerne, je suis absolument pas islamophobe parce que j'en ai strictement rien à foutre de l'islam. Ça ne me regarde pas, sauf quand on commence à m'empêcher de vouloir penser et dire ce que j'ai en tête. Non, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, je pense, des deux côtés du poste de radio, c'est pas de l'islamophobie ou de la catophobie, c'est de la déiphobie. Parce qu'on a raison d'avoir peur face au fou de Dieu. Ça c'est dit. En ce qui concerne d'ailleurs les l'islam ou du moins en France, c'est pas aux soi-disant représentants, et je le mets aux guillemets, représentants qui sont d'ailleurs autoproclamés de l'islam et de la population, de toute la population musulmane en France, c'est pas à ces soi-disant représentants de donner le ton, de parler au nom de tous les musulmans de France qui n'ont rien demandé et qui sont pour leur immense majorité des gens apaisés et qui veulent vivre leur religion ou pas comme n'importe qui, sans obliger qui que ce soit, mes couilles. Donc l'islamophobie, c'est un concept qui a été créé par l'extrême droite et qui est utilisé par tous les politicards, que ça soit de droite, d'extrême droite, comme d'ailleurs de la gauche, comme certains d'extrême gauche aussi, pour pouvoir justement diviser les gens. C'est en fait l'islamophobie, ça n'est qu'une arnaque, c'est une escroquerie qui est un outil politique pour pouvoir manipuler, diviser, pour évidemment mieux rémunérer. Et j'en veux pour preuve le fameux bouquin, c'est pas la première fois que j'en parle, de Charb, qui est une lettre à tous les islamophobes qui font le jeu du racisme. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, on va y aller bien profond avec un morceau de Bagdad Rodeo qui s'appelle « Love, religion et sodomie ». Bien profond, je te l'avais dit.
Je me suis posé des milliards de questions. Est-ce que Daesh me fait peur ? Est-ce que ces mecs ont raison ? Est-ce qu'on doit voiler nos sœurs et enculer des moutons ? Est-ce qu'on doit prôner fabrication, j'aurais dû leur coller une grosse bite sur le front.
Non. Voilà, Love, Religion et Sodomie, un magnifique morceau de Bagdad Rodeo, issu de leur troisième et dernier album qui s'appelle 3, sorti en 2017 chez Bagdad Rodeo plus Lasagne et Cowboys Productions, le tout étant autodistribué. Voilà, ça fait vachement de bien. Il nous reste un morceau avant de nous quitter. Eh ben, on est vachement à la bourre, tout ça. Deux morceaux qui ont sauté, dont Molestage Collectif de Raymond et les Blancs-Bec. Va voir ça sur internet aussi, va l'écouter. En attendant, en guise de conclusion, si on se laissait marcher sur les pieds, si on se laissait faire par des religieux qui considèrent qu'ils ont absolument raison par Dieu interposé, qui croient encore que la terre est plate et que le soleil tourne autour de la terre, franchement, c'est pas eux qui vont nous faire la morale et nous expliquer la vie, bordel de merde. Si on se laisse faire, à nouveau, on se retrouvera sur des bûchers ou dans des autodafés, machin, tout ça, parce que tous, évidemment, l'apostasie et l'athéisme se soignent et se guérissent par le feu. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on se quitte avec un merveilleux morceau de Guérilla Poubelle, issu du dernier album en date, sorti en 2017, par un morceau extraordinaire qui va nous servir de conclusion parfaite et qui s'appelle « Les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées et dont je me revendique ».
Nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Les fils et les filles des sorcières. Nous sommes les descendants de celles que vous n'avez pas pu lapider. Nous sommes les lesbiennes sans mariage, les cisaïennes du Moyen-Âge. Nous sommes les fils et les filles des sorcières.
D'avoir escondé l'édition censurée, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci Cyril pour la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures alternatives et certainement discographiques. Yeah!
Nous sommes les fils et les filles. Nous sommes les fils et les filles. Nous sommes les fils et les filles.
Eh ouais. Et aujourd'hui, plus que jamais, mais bien moins que demain, vive la résistance à la connerie destructrice dominante. Aux chiottes tous les fascismes. Merci, bonsoir.